Bienvenue dans Chambres adolescentes, le podcast. Des portraits en photo et en mots réalisés par Juliette Mass et Jovitech à retrouver sur www.chambresadolescentes.fr. Maëlle, 15 ans, sa chambre est à Saint-André-de-Sangonis, dans l'Hérault.
Elle apparaît face à l'écran entre son père et sa mère. Droite comme un i, une présence lumineuse, ancrée. Elle parle posément, écoute, prend son temps avant de répondre. La jeune fille s'exprime sans tic de langage adolescent ni précipitation. Ses mots sont choisis, pesés, comme ses silences. Je lui demande sa date de naissance. Le 15 octobre 2004. Née à Madagascar. Un silence s'ensuit. J'interroge son père. Il me précise d'un air amusé que lui est né au Congo. Il blague sur les mélanges de couleurs, de cultures. Personne ne vient à mon secours. Ils ont raison. C'est à moi de cheminer vers eux. Je devine que Maëlle a été adoptée. Elle se raconte sans affect, presque froidement. On sent que son histoire, elle a déjà beaucoup narré. Je perçois mal si cela la pèse, l'indiffère, ou si derrière cette distance se cache autre chose. Elle dit qu'on l'a recueillie dans un centre d'adoption, qu'elle ne savait pas qui étaient ses vrais parents biologiques, ni même sa date de naissance, qu'elle a été déposée, que la date de naissance qu'elle nous a donnée est celle où on l'a trouvée. Elle a grandi dans un centre pour orphelins jusqu'à l'âge de 6 ans, puis dans un autre jusqu'à l'âge de 7 ans. Son père précisera 7 ans et demi. On sent que chaque détail compte, que cette histoire qui finit bien n'a pas été simple, et je comprends pourquoi ils tenaient tant tous les trois à ce portrait. Ce qui frappe immédiatement entre eux, c'est le respect, l'amour, la joie, la liberté de parole qu'ils partagent. Maëlle nous accordera les entretiens suivants toute seule dans sa chambre avec toute la confiance que ses parents lui accordent et qu'elle semble leur rendre avec une belle maturité. Nous revenons à Madagascar vers le début de l'histoire.
J'ai pas spécialement des souvenirs marquants, mais des trucs dont je peux me mémoriser. En fait, j'ai pas spécialement tous les détails, tous les souvenirs, parce que ça remonte à longtemps, mais il y a des moments qui ne sont pas spécialement marquants, mais auxquels je me suis rappelé et qui resteront, je pense, dans ma mémoire. Je me rappelle, en été, on avait une piscine gonflable et vu qu'on n'avait pas les moyens pour les maillots, du coup, on allait en culotte. Et du coup, on se baignait pour faire le tour.
Ouais.
Le tour de la piscine pour créer un
mouvement.
Une vague, un mouvement. Ouais. Cet été.
La famille est retournée là-bas pour 2 étés. Lors de vacances. Maëlle dit que ça lui a plu, qu'il faisait chaud et que c'est une île paradisiaque. Le paradis et l'enfer, c'est souvent ce qui revient quand on évoque cette île à la beauté sauvage, mais où les complexes hôteliers de luxe côtoient la misère, le manque d'eau, d'hygiène et un taux d'analphabétisme important. Pour adopter Maëlle, le couple était passé par une petite association du Gard, à taille humaine, précise Florence, sa maman, avec laquelle il garde des contacts, se rendant parfois, quand Maëlle est partante, aux pique-niques annuels. Entre l'acceptation de leur agrément et la rencontre avec Maëlle, il leur aura fallu 5 ans. Florence se souvient que ce fut long. Elle évoque les difficultés administratives, le parcours du combattant, les freins, les vides, les faux espoirs, les déceptions, les retours en arrière et puis enfin, la joie.
On nous dit un enfant et on nous montre un dossier, il n'y a pas de photo. Et c'est tout, c'est neutre, ce n'est pas un catalogue, ce n'est pas un produit de supermarché.
On nous lit l'histoire de Maëlle, on nous dit que si on nous dit que c'est une petite fille de tel âge, on nous lit son histoire. pas. Et là, on nous dit, bon, ben, on vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Mais nous, ça a été évident et de suite, on a dit oui.
Maëlle garde ce dossier d'adoption dans sa chambre, précisera son père. Un dossier qui désormais lui appartient, mais que Maëlle avouera plus tard ne jamais consulter. D'ailleurs, elle ne sait plus tellement où il est rangé, comme si tout cela était derrière elle et que pour grandir, elle avait besoin de s'en affranchir, peut-être aussi de l'oublier. Elle a du reste dernièrement vidé un meuble rempli d'affaires de l'enfance. Adieu jouets, livres d'images, cordes à sauter, ne demeure que Booba, le doudou de son arrivée. Maëlle se souvient qu'elle s'était assez vite adaptée à sa nouvelle vie. Hyper communicante, elle avait rapidement maîtrisé la langue française. Elle dit qu'elle est une fille d'ici, à présent, une adolescente du sud de la France, bien dans ses baskets, qui a su se délester de certains souvenirs et d'habitudes de l'enfance. Quand elle est arrivée, elle faisait son lit au carré, se levait à 5 heures du matin, c'est ce qu'on lui avait appris au centre, précise son père. Et Maëlle, avec son humour calme et nonchalant, ajoute « Je me suis vite adaptée, au réveil à 10 heures et au petit déjeuner tout préparé. Je suis beaucoup moins maniaque qu'autrefois. L'adolescence est arrivée. » Pour cette famille qui est née à Madagascar en 2012, il avait fallu attendre 3 mois assignés à domicile avec des règles très strictes avant que l'adoption de Maëlle soit effective. Alors le « rester chez vous » lié à la Covid-19 les a replongés dans cette période où le lien entre eux s'était créé. On a repris les règles du confinement de l'adoption, même si Maëlle était petite, elle avait déjà vécu ça, et pour cette raison, il n'y a pas eu de clash entre nous. C'est ce que raconte Jean-Marc, son père. Maëlle est sérieuse. Pendant cette période, elle fait ses devoirs, même si elle se sent surchargée de travail et perdue au départ. Et puis, elle prend peu à peu le tempo en s'installant chaque jour à son petit bureau blanc. Elle, qui adore traîner en pyjama, se fait rappeler alors par sa mère qui l'invite à garder un rythme habituel des journées. Sa mère dit « Elle a un côté très cool et très survolté. » Maëlle admet que ses humeurs sont changeantes et qu'elle est soit un zombie, soit une pile électrique qui saute partout.
S'ils nous font l'emploi du temps normal, à chaque fois, à chaque heure, on a le devoir, chaque matière concernée par chaque jour, j'ai l'impression que c'est surchargé à chaque fois parce que dès qu'on est en cours, on a l'habitude directe d'attaquer la leçon, que là, on a plus de choses à rattraper.
Maëlle se lance dans la pâtisserie, qu'elle adore. Danse aussi, chante, s'agite, demande à ses parents de s'abonner à Netflix. Elle dit que maintenant, ils sont encore plus accros qu'elle. Son père est plus film de guerre, sa mère récit historique, et elle, animé japonais, qu'elle regarde toute seule sur son ordi en VOST. Parfois, ils partagent une série, comme Self-Made. L'histoire vraie de la première Self-Made Woman, afro-américaine à devenir millionnaire. Pas n'importe quelle série, donc. Un modèle au féminin et à la peau noire. Une de ces personnalités remarquables qui, en ce moment, plaisent à Maëlle, de plus en plus engagée pour le droit des femmes. Cet enfermement forcé lui a aussi permis de laisser libre cours à sa créativité, reprenant le dessin, peaufinant avec plaisir ses devoirs d'art plastique. Elle dit que 2 mois finalement s'est vite passé, qu'elle a retrouvé son esprit artistique, qu'elle a repris la peinture et découvert la gouache, qu'elle a peint des objets. Et qu'à l'école, il fallait reproduire un tableau. Elle s'est lancée donc sur la nuit étoilée de Van Gogh parce qu'elle aime bien le pointillisme. Côté connexion aux écrans, Maëlle semble maîtriser la chose. Pas après 21h, elle nous dit tout de suite, mais son père module le propos en disant « Joker là-dessus, Joker ». Ben, visiblement, dans cette famille, comme dans les autres, le temps de connexion est ou a été un sujet qui fâche. Pas facile de couper. Et ici comme ailleurs, pour protéger l'adolescente, des règles plus strictes ont été adoptées. Depuis ces restrictions, en tout cas, Maëlle avoue créer davantage, s'occuper autrement, et réalise que finalement, ce qui lui a le plus manqué pendant cette période de confinement, ben, ce sont les copains, qu'elle a revus dès le déconfinement et sans tarder.
Au début, on s'est dit, pourquoi pas se revoir. Et au début, on avait un peu perdu les habitudes qu'on faisait, parce qu'on avait l'habitude de se voir la majorité du temps. Là, ça faisait longtemps. Il y a des mois et des mois qu'on ne s'était pas vu. Et du coup, le fait de se revoir, c'était assez bizarre. On avait du mal des fois à se parler, à dire « Salut, ça va ? Et toi ? Ça s'est bien passé ton confinement ?»
Je ne savais plus quoi vous dire, du coup.
Oui, mais on a très rapidement pris les sujets de conversation et on a très rapidement retrouvé les choses qu'on avait fait avant.
Maëlle nous reçoit dans sa chambre, entourée de ses murs vert-pomme, souriante, présente, prête. Au début, elle aimait bien ce vert gazon qu'elle avait choisi. Maintenant, elle le regrette un peu. Elle dit « Je change beaucoup d'emplacement des meubles en ce moment, la déco. Ma chambre est temporaire. » Tout au long de la conversation, elle discriminera assez nettement ses goûts d'hier et ceux du présent. Elle est en plein changement, elle en est consciente. C'est d'ailleurs avec son bureau blanc, rehaussé d'un petit miroir, qu'elle choisit de commencer la visite de sa chambre.
Oui, je suis généralement presque tout le temps, vu que maintenant, pendant le virus, je mets presque tout le temps sur mon bureau. J'y vais juste quand je vais à table. En fait, je quitte juste le bureau quand je vais à table, mais après, je me mets rapidement dessus. C'est une habitude que je prends de travailler dans mon bureau. Avant, je prenais tout le temps mon lit en guise de repos. Enfin, maintenant, j'aime mieux être debout. J'ai pris l'habitude d'être assis sur quelque chose, donc... Je suis facilement plus à l'aise et même quand je regarde mon portable ou que j'écoute la musique, je suis sur mon bureau parfois.
D'accord. Plus sur ton lit.
Je pense que c'est dû au confinement parce que du coup, vu que j'ai pris l'habitude d'y travailler dessus, plus systématiquement aussi changer et d'aller après sur le lit le soir. Mais je pense que je me suis vite habituée à avoir une position assise. D'avoir une position droite au lieu d'être couché. Du coup, j'ai pris l'habitude d'aller sur le bureau directement dès que j'ouvre ma chambre.
Idem pour la décoration qu'elle adore. Autrefois, elle se laissait mener par les tendances édictées sur les réseaux sociaux, mais maintenant, elle fait comme il lui plaît, assumant les mélanges, ses goûts, pour la déco comme pour le reste. Elle dit qu'elle essaie de s'écouter de plus en plus. Elle poursuit sa visite, balaye les meubles fabriqués par son papy ébéniste, la commode, la grosse armoire. Elle aime les savoirs là, souvenirs, traces d'un être cher disparu, et puis aussi parce qu'elle aime bien ce qui est fabriqué à la main. Elle passe devant le lit avec les peluches, autrefois tant habitées en mode zombie, mais dont l'usage quotidien est revenu à sa stricte utilité. Elle y dort. Elle nous emporte ensuite vers ce qu'elle nomme son petit coin fenêtre, qui donne sur la rue. Elle y passe du temps, une habitude qui fait partie de sa vie.
Là, j'ai un petit coin où en fait je peux m'asseoir. Et j'ouvre la fenêtre et j'ai la vue directement sur ma rue. En général, des fois, je prends les photos du ciel et je regarde.
Ou je capture ce que je vois en clignant des yeux. Je photographie l'image mentalement. Je me dis qu'ainsi, elle restera en moi. Pour elle, la chambre est un refuge qui la protège, l'isole. Elle peut rester des heures. Elle n'a pas envie d'aller à l'extérieur, parfois elle n'a même pas envie et la flemme d'aller jusqu'aux toilettes. Quand je rentre du collège, je cours, je file dans ma chambre me reposer. Souvent, je me mets en pyjama direct. Je suis souvent fatiguée après le collège. C'est à ce moment que Maëlle aime faire l'étoile, les bras en croix sur le sol. Le plafond blanc lui rappelle les idées noires qui surgissent avant de dormir et qu'elle essaie d'apprivoiser. Elle nous avoue avoir du mal à se confier, à dire ce qu'elle ressent. Il lui faut du temps pour comprendre ce qui la traverse et ce temps d'introspection, c'est toujours dans sa chambre qu'il a lieu. Elle nous raconte encore « Je dis pas aux autres ce que j'y fais, mes cheveux, les ongles, tout ça. C'est comme si la porte de ma chambre était un trou de serrure. Quand je l'ouvre, quelque chose peut s'en libérer. Mais le secret reste dans un coin, caché, intact. De ma chambre, rien ne s'échappe. D'ailleurs, elle laisse pas beaucoup de gens rentrer, ou jamais très longtemps, même avec les copains. Ils vont plutôt sur la terrasse, dans le salon ou dehors. Alors avec Juliette, on mesure la confiance qu'elle nous accorde de demeurer dans ce lieu de l'intime avec elle, mais aussi l'intelligence, la sensibilité de cette jeune femme qui, à 15 ans, a déjà fait sien le conseil de Virginia Woolf, avoir une pièce à soi. un espace mental ou matériel pour se retirer du monde et s'accorder un peu de temps. Vaste, décorée à sa façon, sa pièce à elle est la plus grande de la maison. Maëlle, au sein de la famille, a une place importante. Une place pour la réflexion, la créativité, les silences, les amis, la discussion. Une place pour l'être en devenir et à la citoyenne de demain. Une chance, elle en est consciente. Pourtant, au sein même de cette grande chambre, avec vue sur le ciel, parfois, elle se sent oppressée. Les pensées sur la vie, l'amour, l'avenir, la rendent triste. Mais là aussi, elle a un remède. Elle dit « J'écoute de la musique à fond sur mon enceinte. Je chante. Souvent, mes parents crient « À table !» et je n'entends rien. Alors, ils viennent me chercher. » Sur les murs, des photos de copains côtoient les images d'art qu'elles glanent sur Internet, comme celles des femmes illustres qui, pour elles, ont su se distinguer du rôle que la société voulait leur imposer.
Des femmes comme Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, j'ai pas encore fini, mais en général, oui, c'est des femmes. Et après, il y a aussi des paysages. J'ai pu voir que dans l'histoire, il y a des femmes qui sont battues, mouvementées pour des choses, pour avoir des droits, pour avoir une égalité. Et je me suis dit que, vu qu'il y a des gens qui le font aussi par rapport à faire des dessins, des peintures, le street art, qui refont les dessins d'elles et pour montrer ce qu'elles ont marqué dans l'histoire. Maintenant, dans notre situation, on parle beaucoup pour marquer les choses, pour faire révolutionner les sujets, par exemple la pollution et d'autres sujets. On en parle notamment directement sur les réseaux pour atteindre les plus jeunes, vu que maintenant, la seule solution de discuter, de pouvoir passer les informations, c'est sur les téléphones, c'est sur les tablettes, c'est sur les ordis. Et du coup, vu que j'ai découvert le féminisme et tous ces genres de sujets, notamment sur les réseaux et sur Internet, j'ai pu découvrir que moi aussi, je pouvais défendre ces droits, ces sujets via les réseaux sociaux.
Elle évoque cette youtubeuse qui allie montage audiovisuel à message féministe, comme cette vidéo où on voit cette fille se maquiller en répétant « Sois toi-même ». Cela touche Maëlle. Être soi revient souvent dans ses propos. Est-ce si difficile d'être soi à 15 ans?
Avant et toujours maintenant, je ne peux pas être forcément moi-même parce que dans le collège, en général, dans la rue, on se sent souvent jugé, jeté par les regards, souvent regardé ou critiqué par ce que l'on fait. Même si on essaie d'être soi-même, d'assumer ce qu'on fait, derrière, il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de dire leur avis, de commenter, de critiquer, de jeter une haine sur une personne alors qu'elle n'a spécialement rien fait à part d'être elle-même. Je veux dire en tant que fille que oui, notamment sur les femmes, il y a beaucoup de jugements, de critiques, de sexisme envers les femmes dû à ce qu'elles font, dû à ce qu'elles fassent de leur corps, dû à ce que comment elles ce qu'elle montre, c'est tout le temps une apparence négative, premièrement, qu'on pense. Même certaines filles peuvent se mettre la même chose, peuvent avoir les mêmes jugements, les mêmes pensées que les garçons. Alors que ça doit être totalement injuste, parce que une fille, tu peux être aussi te mettre d'un côté d'un garçon, mais aussi, notamment, une fille, vu que t'es une fille, t'es née dans le corps. Encore heureux que maintenant, les années, ça change, mais je pense que ça peut aller plus loin, qu'on peut encore plus, si on le veut vraiment, on peut encore plus. Maintenant, avec Madame Kinnich, c'est différent, on n'a plus le droit de mettre un jean avec un seul trou, plus de crop top. Bon, la dernière fois, je me rappelle, j'avais une amie, elle avait mis l'ensemble des deux, genre un jean avec des trous et un crop top. Et moi, justement, ce jour-là, j'étais venue avec quelque chose d'assez sexy, justement, avec la dentelle. Et c'est elle à la place qui s'est fait remarquer. Pas la tenue qui va dire qu'on va être considérée comme une fille qui veut attirer de l'attention, comme une fille qui veut forcément avoir des rapports sexuels. C'est pas la tenue qui inflige ou qui fait remarquer ce qu'on veut être plus tard ou qu'on veut faire. La tenue vestimentaire ne veut pas tout définir, en gros.
Le discours indigné de Maëlle traduit cette pression sur le corps féminin, ressentie par de nombreuses collégiennes et lycéennes rencontrées. Trop ou pas assez? Qu'est-ce qui est indécent ou pas? Au nom de quelle morale? Pourquoi, par exemple, refuser la vue des nombrils féminins en acceptant les pantalons de garçons taille basse qui laissent entrevoir leurs sous-vêtements et parfois plus? Maëlle, qui se dit dingue de fringues, témoigne aussi d'un certain formatage vestimentaire. Elle raconte « Je me suis déjà fait critiquer avec les copines pour des tenues avec de la couleur qui tranchaient avec le côté uniforme du troupeau des gens du collège. On a été sujet à pas mal de critiques. La créativité n'est pas valorisée. Il ne faut surtout pas se faire remarquer. Il faut suivre la mode bêtement, être vintage comme les autres.
J'aimais bien un style, et du coup j'ai commencé à m'habiller comme ça, et souvent je me faisais critiquer à ce que je porte parce que soi-disant c'était bizarre, soi-disant c'était pas particulier, parce que notamment ce que je portais, c'était pas tout le monde qui le portait forcément, c'était pas tout le collège, je pense qu'au collège on s'habille forcément tous un peu de la même manière, et des fois on retrouve des gens qui mettent les mêmes vêtements, le même jour, le même truc. Et du coup, des fois, avec mon ancien groupe d'amis, on était un peu les seuls qui s'habillaient un peu particulier, autrement, différemment, avec peut-être un peu plus de couleurs. Et du coup, nous, au milieu de ce grand troupeau de gens qui s'habillaient systématiquement pareil, ou en général un peu pareil, ou qui, avec un style qui ressemble, nous qui étions différents, on était un peu le sujet en plein milieu des regards, des critiques. Et du coup, évidemment, j'ai commencé à les prendre, les critiques, à y faire attention. Et du coup, je me suis moins habillée comme je plais.
Sur son pouf, Maëlle aime lire des BD, mais aussi discuter au téléphone des heures avec les amis. Elle a sa petite bande. Léna, sa meilleure copine depuis l'enfance, et puis Loane et Mathéo. Le plus souvent, ils se rejoignent au parc, se baladent dans la campagne. Elle dit qu'avec les amis, ils se sentent mieux isolés que chez eux, que c'est un espace plus libre dehors. Les parents autorisent à aller les uns chez les autres, mais il faut auparavant qu'ils aient le téléphone des autres parents. Et c'est toujours après les devoirs, évidemment, précise-t-elle. Un espace de liberté rassurant et un souffle pour elle nécessaire. Elle raconte qu'elle se confie plus à ses amis qu'à ses parents, mais que de toute façon, elle a du mal à se confier. Les tristesses, les colères, j'ai tendance à les garder pour moi, dit-elle. Il me faut beaucoup de temps pour me dégager de mes émotions. Après, je peux en parler, les partager, mais pas sur le coup. Et parfois, j'angoisse. Elle ne dira rien de ses angoisses, mais elle glissera simplement que l'amour, ça rend triste. Alors elle partage ce qu'elle nomme ses pensées négatives, ses galères, avec Mathéo, son confident du moment.
On va pas dire que c'est mon meilleur ami, mais je sais pas, c'est bizarre, c'est un très 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 bon ami. Mais même si c'est pas mon ami, mon numéro un, je sais pas. On s'est souvent confié sur nos vies, sur nos galères, et je pense qu'on a pris l'habitude forcément de montrer ses émotions, sa peine, sa tristesse, sa colère, dès qu'on a ces sentiments, on le dit à chacun. On se comprend facilement dans les choses. J'ai vu juste que même en l'espace d'un mot ou quelques-uns, ou même des fois quand j'essaye de développer son problème ou le mien, je peux remarquer qu'on a beaucoup de choses sur nos problèmes ou nos difficultés. Il y a beaucoup de choses en commun qui reviennent.
Après ces échanges complices, elle se sent libérée, prête à écouter les amis et à reprendre ce qu'elle dit, cette place de psy que la petite bande lui accorde. Plus tard, elle ne sait pas encore ce qu'elle fera, Maëlle, un métier créatif certainement. En attendant, il lui tarde de retrouver l'été pour sortir avec les copains, rire, aller parfois au resto, manger des trucs gras comme elle adore le faire avec ses cousins quand ils viennent en vacances. Elle s'amuse tellement avec ses copains parce que, dit-elle, on fait n'importe quoi. On s'amuse, quoi.
Avant, je maquillais assez beaucoup, souvent. Maintenant, j'essaie de faire un truc plus naturel. Avant, je mets tout le temps du fard à paupières, de la liner, du mascara, du blush, beaucoup de choses, quoi. Maintenant, je mets seulement des trucs plus naturels, par exemple le mascara, des petites paillettes et du baume à lèvres. C'est tout. C'est pas genre donner une apparence envers les garçons d'être beaucoup maquillés, mais juste que je préférais mieux, je pense. Je pense que être moins maquillée, c'est plus moi-même. Même avant, je n'assumais pas du tout mon visage parce que je ne trouvais pas assez belle. Du coup, pour cacher certaines imperfections, j'utilisais tout le temps souvent le maquillage. Mais voilà, quoi. Si j'ai un grain de beauté en plein milieu, si j'ai un bouton, c'est pas grave. Hein.
Avant de quitter Maëlle, je lui demande ce qu'elle attend de ce portrait. Après un bref silence et calmement, elle me répond « Pouvoir être moi, me montrer telle que je suis ».